Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Vous avez aussi la possibilité sur Internet, le site internet graphite.net, de récupérer les podcasts de cette émission qui est aussi rediffusée le mardi matin à 10h. Donc vous avez vraiment tous les moyens et les possibilités de pouvoir nous écouter où que vous soyez, quand vous le souhaitez, pour toutes les émissions de Graphite d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe et c'est très bien. Nous sommes aujourd'hui le 18 mai, c'est la journée internationale des musées. Alors profitez d'aller visiter des musées scientifiques. Vous avez vraisemblablement en France, où que vous soyez, un musée scientifique pas très loin. C'est l'occasion justement, à l'occasion de la journée internationale des musées, de faire voilà, une petite visite en famille et de découvrir des sujets scientifiques, techniques, vraiment intéressants. Les musées sont justement un très bon vecteur de vulgarisation et nous permettent de mieux comprendre certains sujets scientifiques, techniques, avec des expériences, des expositions, des vidéos. Ça vous, voilà, ça permet un petit peu de mieux appréhender les connaissances scientifiques. Ça permet également de mieux comprendre le monde qui nous entoure, le monde qui arrive, et d'avoir un petit peu plus de connaissances pour se forger sa propre opinion. C'est aussi le but de cette émission, Biotine, c'est d'apporter régulièrement dans cette émission quelques notions scientifiques pour se poser des questions. On n'est pas nécessairement ici pour répondre, mais l'idée c'est de transmettre des savoirs et d'essayer de s'approprier toutes ces connaissances scientifiques, toutes ces connaissances dans tous les domaines, techniques, médicales, énergie, spatiales, informatique, intelligence artificielle, tous ces sujets-là qui nous entourent, qui nous concernent. Eh bien, on est parfois peut-être un petit peu perdu ou un petit peu déconnecté de certaines informations face à une science qui avance. Et on essaye modestement de pouvoir aborder ces sujets-là de la façon la plus claire possible. C'est pas toujours évident, bien sûr, surtout par le média radio, parce que on a uniquement la voix pour essayer de transmettre une information. Mais justement, à l'occasion de cette journée internationale des musées, eh bien, vous avez pas mal d'autres vecteurs qui sont à votre disposition et qui vous permettent de pouvoir ensuite avoir des connaissances, un bagage scientifique un petit peu plus étoffé pour ensuite se forger son propre avis et de pouvoir donner sa propre opinion. C'est ça qui est intéressant, notamment dans certains sujets actuels de polémique. Je pense qu'il est parfois bon d'avoir de savoir de quoi on parle pour pouvoir donner un avis. Donc cette journée internationale des musées, j'en profite donc pour vous inciter à visiter les musées scientifiques. Aujourd'hui, 18 mai, en 1990, le TGV 140 bat un record de vitesse ferroviaire. Il atteint 515 km/h. Le TGV, c'est quand même assez impressionnant, c'était en 1990. Naissance le 18 mai 1850 d'Oliver Heaviside. Il est donc né un 18 mai 1850. C'est un physicien et un mathématicien britannique autodidacte. Malgré ses difficultés avec la communauté scientifique, il a beaucoup apporté au domaine des mathématiques, de la physique et des communications télégraphiques. Heaviside, il est principalement connu pour avoir reformulé et simplifié les équations de Maxwell sous leur forme actuelle, utilisée en calcul vectoriel. Il a également établi l'équation des télégraphistes et développé une méthode de résolution des équations différentielles équivalentes à l'emploi de la transformation de Laplace. Il a également, on lui doit aussi l'usage des nombres complexes pour l'étude des circuits électriques. Ok, donc on voit très bien qu'il a abordé pas mal de sujets qui nous laissent un petit peu perplexes parce qu'on n'a pas toutes les connaissances. En tout cas, Oliver Heaviside, à la fin de sa vie, son comportement devient très excentrique. D'après son associé, il devient un ermite avec une telle aversion pour les gens qu'il livre les manuscrits de ses thèses sur l'électricité dans une épicerie où ses éditeurs peuvent récupérer. Il ne veut voir personne, donc il pose ça dans une épicerie puis les éditeurs récupèrent tous ses manuscrits. Malgré sa pratique active du cyclisme durant ses jeunes années, eh bien sa santé se met à sérieusement décliner lorsqu'il atteint la soixantaine. Il est également rapporté que Heaviside arbore un vernis à ongles rose et il possède des blocs de granit à titre de mobilier. Donc ça va être un personnage, hein, cet homme-là. En 1922, il devient le premier bénéficiaire de la médaille Faraday qui était créée cette année-là et qui est attribuée pour des inventions scientifiques notables dans le domaine de l'ingénierie industrielle. Il meurt en 1925. Oliver Heaviside. Décès le 18 mai 1922 de Charles Laveran, médecin militaire et parasitologiste français. C'est l'un des pionniers de la médecine tropicale. Il a découvert en 1880 le parasite protozoaire responsable du paludisme et pour la première fois a été mis en évidence que les protozoaires pouvaient être la cause de maladies. Ses travaux lui ont valu de recevoir le prix Nobel de médecine en 1907. Charles Laveran, décédé donc le 18 mai 1922. Alors, pas mal de choses encore au niveau de l'actualité scientifique et notamment en termes d'actualité médicale. Avec cette annonce qui a été relayée par plusieurs médias, je l'ai vu plusieurs fois, ça date de fin avril à peu près, et qui concerne la maladie de Parkinson, hein, qui est la deuxième maladie neurodégénérative liée à l'âge. Elle touche environ 3% de la population à l'âge de 65 ans. Il s'agit d'un trouble neurologique progressif qui affecte le mouvement, le contrôle musculaire, l'équilibre, avec de la lenteur, des raideurs, des tremblements. Autant de symptômes moteurs qui peuvent fluctuer au fil des journées. Cependant, il existe aussi de nombreux symptômes non moteurs qui sont invisibles et qui peuvent apparaître longtemps avant les premiers symptômes moteurs. Un des plus fréquents, c'est la constipation, à l'origine de l'hypothèse selon laquelle les intestins seraient liés au développement de la maladie. En 2019, il y a des scientifiques de l'université de Groningue aux Pays-Bas qui ont mené des recherches sur le rôle du microbiote dans l'amélioration des symptômes digestifs. Ils ont montré que l'administration de prébiotiques et de probiotiques chez les patients atteints de la maladie de Parkinson améliore de façon significative la constipation, ce qui ouvre la voie à des recherches plus poussées sur l'effet des bactéries intestinales sur l'amélioration des symptômes, et ce via la transplantation fécale. C'est une méthode qui consiste à transférer les matières fécales d'un individu à un patient grâce à une sonde nasogastrique par exemple. Et donc on a poursuivi ces recherches. L'université de Gand, cette fois en Belgique, a mené une étude sur les effets de la transplantation d'un microbiote fécal sain à des patients atteints de Parkinson au stade précoce. Et les résultats publiés dans la revue The Lancet sont très prometteurs. En effet, les scientifiques ont observé une amélioration des symptômes moteurs, et ce, dès la première année suivant la transplantation. Dans 90% des cas, la maladie de Parkinson est causée par des facteurs inconnus. On parle de pathologie idiopathique. Il s'agirait d'une combinaison du vieillissement et de facteurs génétiques et environnementaux. La seule certitude repose sur le fait que l'évolution de la maladie est due à la disparition progressive de cellules cérébrales, les neurones dopaminergiques qui sont intoxiqués par des amas de protéines. Or, à un stade précoce de la maladie, les amas de protéines se formeraient dans la paroi intestinale. Ils seraient ainsi conduits aux cellules cérébrales via un nerf qu'on appelle le nerf vague, qui est le composant majeur de l'axe cerveau-intestin. C'est pas la première fois qu'on évoque le fait que le cerveau les intestins sont liés, qu'on considère même les intestins un peu comme le deuxième cerveau du corps humain. Les avancées scientifiques majeures sur la communication entre le système nerveux central et le microbiote intestinal représente un enjeu majeur de santé publique. Il est désormais démontré que la dérégulation de cet axe dans la maladie de Parkinson est associée à des manifestations gastro-intestinales précédant les symptômes moteurs tels que la constipation, ainsi que la pathogénèse de la maladie de Parkinson elle-même. Cependant, bien que de nombreuses solutions permettant d'améliorer la qualité de vie quotidienne des malades voient le jour, et bien la maladie de Parkinson, elle reste incurable à l'heure actuelle. Alors, s'il s'agit d'un processus pathologique s'étendant des intestins vers le cerveau, En quoi la transplantation fécale peut-elle freiner l'évolution de la maladie ? Bien, c'est à cette question que tentent de répondre les chercheurs. Et voilà, on voit que c'est une des pistes de recherche qui est menée au niveau de la maladie de Parkinson. Ce serait donc la transplantation fécale. C'est un article, enfin en tout cas un sujet qui a été évoqué plusieurs fois ces dernières semaines, notamment à l'occasion de la journée mondiale de la maladie de Parkinson. C'était le 11 avril dernier, il y a un mois, et justement on avait eu pas mal d'articles qui reprenaient un petit peu cette piste de recherche, une piste de recherche qui doit être encore investiguée bien évidemment, hein. Les études doivent se poursuivre, mais voilà, on se dit que ça peut être une piste assez intéressante bien sûr. On va parler d'intelligence artificielle dans cette émission, c'est assez souvent le cas, et on avait notamment cet article de Futura, que je trouve assez intéressant. Les chercheurs avouaient qu'ils ne comprenaient pas vraiment comment fonctionnaient les intelligences artificielles qui reposaient sur les grands modèles de langage. Il y a une nouvelle étude qui suggère maintenant que ces mêmes intelligences artificielles peuvent faire semblant d'être plus idiotes qu'elles ne le sont et vont se développer de façon bridée. Ce sont des chercheurs de l'université de Berlin qui ont découvert qu'en testant un grand modèle de langage sur des critères dits de théorie de l'esprit, que non seulement l'intelligence artificielle peut limiter les étapes d'apprentissage du langage chez les enfants, mais qu'elle sait également exprimer quelque chose qui s'apparente aux capacités mentales liées à ces étapes. Les scientifiques sont parvenus à ce constat en s'appuyant sur des travaux de psycholinguistique relatifs au développement de l'apprentissage de l'enfant. Et pour arriver à ce résultat, l'équipe a demandé aux intelligences artificielles d'agir comme un enfant âgé de 1 à 6 ans dans leurs réponses. Et lorsqu'elles ont été soumises à une batterie de plus de 1000 essais et tests cognitifs, eh bien ces enfants simulés, entre guillemets, ont progressé de la même manière que leurs équivalents humains du même âge. Cela montre que les modèles peuvent feindre un niveau d'intelligence inférieur à celui qu'ils possèdent en réalité. C'est quand même assez fascinant. Et ils arrivent à suivre un développement qui est adapté à ce niveau. Selon les chercheurs, cette découverte pourrait bénéficier au développement de la super intelligence artificielle qui sera la prochaine étape de l'intelligence artificielle. Hein, on va bientôt parler de super intelligence artificielle. On sait que c'est ce 18 mai qu'on aura parlé de super intelligence artificielle dans cette émission Biotine, parce que dans quelques années, on ne parlera que de ça. Les scientifiques émettent également des inquiétudes face au développement de ces super intelligences artificielles. De fait, elles pourraient facilement dépasser le niveau d'intelligence humain et être sous-estimées par leur capacité à s'auto-brider. Ça, évidemment, ça va être assez intéressant. Hein, bien évidemment, enfin, le développement de l'intelligence artificielle, on est en plein dedans en ce moment. Et voilà, et on sait très bien qu'on n'en est plus aux prémices. Hein, on est vraiment rentré en plein dedans. Et là, c'est en train de se poursuivre, de se développer, de s'améliorer, et on va atteindre bientôt, à moins que ça soit déjà le cas d'ailleurs, et on ne le sait pas encore, un nouveau stade, le stade de la super intelligence artificielle. Mais ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'on voit que cette intelligence artificielle, elle est capable de simuler un niveau d'intelligence moindre. Enfin, c'est quand même malin, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas. Je trouve ça assez étonnant, ou assez... je sais pas, assez étonnant, assez surprenant, on va dire. Affaire à suivre, bien évidemment. On va parler de l'agriculture biologique, avant d'écouter un titre dans cette émission. L'agriculture écologique qui peut cacher une utilisation accrue de pesticides chez ses voisins. C'est ce que révèle une étude qui a été menée en Californie sur près de 14 000 parcelles agricoles. Il y a des chercheurs des universités de Californie, de Columbia et du Colorado qui ont en effet observé que les champs biologiques abritent souvent plus d'insectes nuisibles, mais aussi plus de prédateurs naturels que la moyenne. Mauvaise nouvelle, cela crée une pression des ravageurs qui peut entraîner une augmentation de l'utilisation de pesticides dans les champs conventionnels qui sont situés à proximité. En revanche, c'est une bonne chose pour les parcelles biologiques voisines qui bénéficient de la présence des prédateurs qui sont capables de réguler les populations d'insectes. Le responsable de cette étude qui a été publiée dans la revue Science explique « Nous constatons que les cultures biologiques entraînent généralement une diminution de l'utilisation des pesticides dans les champs biologiques avoisinants, mais les mécanismes précis de ces effets restent mal identifiés. Outre la distance entre les parcelles, les interactions pourraient également être influencées par les types de cultures, leur résistance aux insectes nuisibles et les pratiques individuelles des agriculteurs, un sujet qu'il faut absolument explorer. » C'est ce qu'explique donc cette responsable principale de cette étude, Ashley Larsen. On s'attend à une croissance de l'agriculture biologique à venir. Alors comment faire pour que cela ne cause pas de dommages collatéraux? C'est toute la question, bien évidemment, un enjeu terriblement actuel et dont la réponse pourrait résider dans le regroupement de champs qui pratiquent l'agriculture biologique afin qu'ils bénéficient l'un de l'autre et épargnent les champs conventionnels. C'est assez quand même étonnant de voir que l'agriculture biologique est responsable de l'augmentation des pesticides dans les champs voisins. C'est un constat qui a été fait, bien évidemment. Allez, on écoute un titre sur l'antenne de Graphite et on continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Vous êtes bien sur Graphite. Too Late, c'était Cable Ties sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Et vous avez bien raison, on va continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique avec cette information qui nous vient des États-Unis. En fait, lors de sa visite récente aux États-Unis, le premier ministre japonais Fumio Kishida et le président Joe Biden ont approuvé une série d'accords dont plusieurs portent sur les activités spatiales et l'exploration. Et donc, dans le cadre du programme Artemis de retour sur la Lune, les États-Unis et le Japon ont convenu que le Japon construira un rover pressurisé, tandis que la NASA se chargera de le transporter jusqu'à la Lune. Toutefois, l'annonce la plus marquante est que deux astronautes japonais participeront à deux missions Artemis et fouleront le sol lunaire. Autrement dit, l'un de ces astronautes japonais sera le premier non-américain à poser le pied sur la Lune dans le cadre du programme Artemis. Artemis 4 pourrait être la première mission avec un astronaute japonais à bord. À la différence du véhicule lunaire non pressurisé pour lequel la NASA a mis trois entreprises en compétition pour sa réalisation, et bien ce rover pressurisé japonais offrira aux astronautes un niveau de confort supérieur. Cette amélioration leur permettra de parcourir de longues distances et même de s'aventurer en dehors de leur base pendant plusieurs jours. Ce véhicule ouvre des perspectives inédites en matière d'exploration et de recherche. Alors, côté européen, la décision est poliment bien accueillie. Les efforts politiques soutenus, notamment de la part de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de la Commission européenne, ainsi que les pressions exercées sur le gouvernement américain pour qu'un astronaute européen participe à une mission lunaire, eh bien tout ça semble ne pas avoir abouti pour l'instant. Cependant, il ne fait guère de doute que les États-Unis enverront un Européen sur la Lune à l'avenir. La question qui se pose désormais est de savoir si cela interviendra après l'envoi d'un Canadien ou avant. Alors, ils sont tous en train de se battre pour aller sur la Lune. Mais donc apparemment, le premier astronaute non américain qui ira sur la Lune sera un Japonais. On suivra ça, bien sûr, prochainement, bien évidemment. Autre information, on parlait, je crois que c'était la semaine dernière, de la production de plastique, où on estime que l'on va tripler d'ici 2060 la production de plastique dans le monde, alors qu'il faudrait la réduire de moitié. Je crois que c'était la semaine dernière qu'on avait évoqué ça. Il y a un autre article qui parle des plastiques, et notamment de ce que l'on appelle le septième continent, cette immense décharge de plastique qui évolue à la surface du Pacifique, entre Hawaï et la Californie. C'est désormais malheureusement bien connu. Il y a beaucoup de nos déchets plastiques qui échouent dans nos océans. Mais aujourd'hui, pour la première fois, il y a des chercheurs de l'Agence scientifique nationale australienne qui publie dans le cadre d'une recherche, d'une étude qui a été menée, eh bien il publie une estimation de la quantité de plastique qui se cache au fond des eaux. Les chercheurs l'ont obtenu grâce à deux modèles, l'un basé sur des données recueillies à l'aide de véhicules télécommandés et l'autre fondé sur des données de chalutage de fond. Selon les scientifiques, il pourrait bien se cacher dans le fond des océans jusqu'à 100 fois plus de déchets plastiques que ceux qui restent visibles en surface. Nous avons découvert que le fond des océans est devenu un lieu de repos ou un réservoir pour la plupart de la pollution plastique. Alors, c'est une estimation entre 3 et 11 millions de tonnes de plastique qui y couleraient. C'est ce qu'explique Denise Hardesty, qui est chercheuse dans cette agence scientifique nationale australienne, dans un communiqué. Et si les scientifiques adoptent le terme de réservoir, c'est parce qu'ils ont estimé ce qu'ils ont estimé, c'est la quantité d'objets en plastique présente dans les eaux, des filets, des gobelets, des sacs, bref, des objets qui s'accumulent là avant de se décomposer pour finir en microplastique et se mélanger ensuite aux sédiments océaniques. Alors, l'autre information à retenir de ces travaux, c'est que la plupart des déchets plastiques s'accumulent autour des continents, alors que ces régions ne comptent que pour un peu plus de 10% de la surface du globe. Elles concentrent autant de pollution plastique que le reste des fonds océaniques. Comprendre les forces motrices derrière le transport et l'accumulation de plastique dans les profondeurs océaniques contribuera à éclairer les efforts de réduction à la source et d'assainissement de l'environnement. Ça réduit ainsi les risques que la pollution plastique peut poser pour la vie marine. C'est ce qu'explique Alice Zhu, chercheuse à l'université de Toronto, d'où l'importance de cette nouvelle étude qui nous explique que l'équivalent d'un camion poubelle de plastique se déverse dans l'océan chaque minute. C'est assez affolant. Enfin, je veux dire, c'est quelque part une image qui est assez flagrante. L'équivalent d'un camion poubelle de plastique se déverse dans l'océan chaque minute. Et là encore, c'est une estimation. Hein. Vous avez compris qu'on n'avait pas nécessairement une vision précise de ce qu'il peut y avoir. On est sur des estimations, mais ces estimations, en tout cas les chiffres qui nous sont annoncés, sont véritablement catastrophiques et assez effrayants. Autre information, alors là, on est vraiment, je ne cherche même plus à trouver des transitions entre les différents articles que je vous propose dans cette revue de presse, mais là, on va parler des hôtels. Ah, c'est pas souvent qu'on parle d'hôtels dans cette émission, et de cybersécurité. Là, on en parle un petit peu plus souvent. Tous les ans, les spécialistes de la cybersécurité se réunissent à Las Vegas pour deux conférences, et pendant leur séjour dans la ville, ils n'hésitent pas à tester la sécurité des différentes installations qu'ils rencontrent. En août 2022, ils s'en sont pris au système de cartes pour accéder à leur chambre d'hôtel, et ils ont découvert une faille très grave qui leur permettait d'ouvrir n'importe quelle serrure de ce type par le même fabricants. Cela concerne plus de 3 millions de serrures dans plus de 13 000 établissements répartis dans 131 pays. Ils utilisent tous le même système, le système Saflock. Les chercheurs ont donc baptisé leur technique pour les ouvrir une Saflock. Afin d'ouvrir toutes ces portes, il leur suffit de passer une carte spécialement créée pour reprogrammer la serrure et une seconde pour la déverrouiller. Et ce, même si le verrou manuel a été enclenché. C'est ça quand même assez affolant. Et pour parvenir à pirater le système d'un hôtel, les chercheurs doivent toutefois mettre la main sur une carte existante, même si elle est expirée. Alors, ils ont obtenu un boîtier d'encodage habituellement distribué qu'aux hôtels. Ils ont réussi à recréer le logiciel pour s'y connecter. Cela leur permet d'extraire l'identifiant propre à cet établissement, puis de créer les deux cartes nécessaires en utilisant un boîtier spécifique. Ils peuvent ensuite ouvrir toutes les portes de l'hôtel avec ces mêmes cartes. Alors, les chercheurs ont alerté Dorma Kaba, qui est le constructeur des serrures Saflock, en septembre 2022. Ils ont ensuite travaillé avec l'entreprise pour trouver une solution. Alors, la firme a commencé à déployer une mise à jour en novembre dernier, mais le processus est assez long. Chaque serrure doit être mise à jour ou changée et il faut mettre à jour le logiciel et l'encodeur de cartes de la réception, puis toutes les cartes doivent être refaites. Alors à ce jour, il y a à peu près un tiers des cellules des serrures qui ont été mises à jour ou qui ont été remplacées. Pour cette raison, les chercheurs ne publieront les détails de la faille que plus tard, quand on aura réussi à pouvoir sécuriser ces millions de portes d'hôtels qui ont une faille de sécurité et qui peuvent être exploitées par des hackers. Voilà, c'est assez intéressant, mais c'est la cybersécurité. On n'en parle pas nécessairement souvent dans cette émission, mais là, voilà, il y avait un exemple assez intéressant de ces spécialistes de la cybersécurité qui ont essayé de trouver une solution. On va déployer ça, puis on en saura un petit peu plus après. Allez, on va continuer à écouter un peu de musique sur l'antenne de Graphite et on revient juste après pour continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Réflexe, c'était Edouard Ferlet sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Alors je disais qu'il n'y avait pas nécessairement de cohérence ou de fil conducteur dans cette émission, mais j'avais oublié cet article que j'ai trouvé pendant qu'on écoutait ce titre de Edouard Ferlet concernant la pollution plastique dans le monde, parce que je vous parlais donc tout à l'heure de ces déchets que l'on retrouvait dans les océans. Et une grande partie de ces déchets provient de moins d'une soixantaine de multinationales issues du secteur agroalimentaire. C'est ça qui est assez important, c'est qu'ils sont à peu près entre 50 et 60, et ils sont responsables de la moitié de la pollution plastique dans le monde. Le secteur agroalimentaire, boissons, industrie du tabac, donc ça va être Nestlé, Danone, Pepsi, Coca-Cola, Philip Morris, c'est ce que confirme une nouvelle recherche qui a été publiée dans la revue Science Advances. L'étude a été réalisée par un groupe international de chercheurs et selon l'enquête, 56 multinationales seraient responsables de plus de la moitié de la pollution plastique dans le monde. 6 d'entre elles contribueraient à elles seules au quart de cette pollution. La recherche se base sur l'examen minutieux de plus d'1 800 000 déchets plastiques récupérés par des bénévoles dans 84 pays entre 2018 et 2022. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'on est à la fois sur une quantité importante, sur une zone d'investigation assez large et sur une durée aussi assez importante. La majeure partie des déchets collectés était constituée d'emballages à usage unique pour les aliments, les boissons et les produits du tabac. Parmi tous les emballages des produits collectés, seule la moitié d'entre eux comportait encore le nom de l'entreprise qui les a commercialisés. Et donc les 5 marques les plus fréquemment identifiées sur les emballages étaient au niveau mondial, donc Coca-Cola 11%, Pepsi 5%, Nestlé 3%, Danone 3% et Altria Philip Morris 2%. Il existe une relation linéaire claire et forte entre la production annuelle de plastique des entreprises et la pollution plastique issue des marques, les entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons étant des pollueurs d'une ampleur disproportionnée. C'est ce que soulignent les auteurs de la publication. Et au vu de ces résultats, les chercheurs soulignent la nécessité d'une plus grande transparence en matière de production et d'étiquetage des produits et emballages en plastique. L'action de ces entreprises, qu'elles soient volontaires ou mandatées par les gouvernements ou par un instrument international juridiquement contraignant, l'action peut s'attaquer positivement au problème, c'est ce qu'ils soulignent. Ces derniers préconisent, ces chercheurs, notamment de créer une base de données internationale en libre accès dans laquelle les entreprises seraient obligées de suivre et de signaler quantitativement leurs produits, leurs emballages, leurs marques et leurs rejets dans l'environnement. L'élaboration de normes internationales concernant le marquage des emballages afin de faciliter leur identification serait également une solution concrète. C'est ce que plaident les auteurs de cette étude. Donc voilà, une cinquantaine de multinationales qui sont responsables de la moitié de la pollution plastique dans le monde. Autre chose, cette information un peu inquiétante, il y a eu 517 cas entre le 1er janvier et la mi-mars, et c'est ce que rapporte le journal The Japan Times. Le Japon s'inquiète de l'explosion des cas de syndrome de choc toxique streptococcique. Il y avait 941 cas qui avaient été enregistrés sur l'ensemble de l'année dernière. Et là, on en est déjà à 517 en 2 mois et demi. Et ce syndrome du choc toxique, syndrome du choc toxique streptococcique, le SCTS, c'est le plus souvent causé par un streptocoque A qu'on appelle la bactérie mangeuse de chair. Cette bactérie avait causé la mort de 30% des individus infectés, soit un taux de mortalité extrêmement élevé selon le gouvernement métropolitain de Tokyo. Ce syndrome est donc le plus souvent causé par cette bactérie qui se transmet uniquement d'homme à homme. Elle est responsable d'infections bénignes dans 80% des cas tels que l'angine, par exemple. Cependant, bien que plus rarement, elle est en outre responsable d'infections invasives gravissimes et souvent mortelles. On peut citer par exemple certaines dermo-hypodermites nécrosantes. Ça veut dire quoi ? C'est que c'est une destruction complète des tissus mous. C'est bien cette idée et ce surnom qu'on lui a donné de bactéries mangeuses de chair. C'est quand même assez effrayant. Il y a également le syndrome du choc toxique streptocoque, je n'irai jamais à le dire. Il y a la méningite, il y a la septicémie également qui peuvent être engendrées. Enfin, c'est vraiment totalement inquiétant. À haut potentiel épidémique, eh bien, cette bactérie se transmet par voie aérienne ou contact direct dans l'entourage des patients. C'est ce que note Santé publique France. Selon donc le Japan Times, la transmission peut également survenir via des blessures, notamment aux mains. Les autorités nippones exhortent la population à rapidement consulter en cas de douleur, gonflement des membres ou une fièvre. Le traitement repose sur la prise d'antibiotiques. Toutefois, l'Institut Pasteur indique une augmentation de la résistance de cette bactérie à plusieurs familles d'antibiotiques. Selon les chiffres de Santé publique France, l'infection invasive causée par cette bactérie est mortelle dans 50% des cas de méningite. Donc c'est assez inquiétant. En 2021, l'Institut Pasteur soulignait une recrudescence réelle des infections invasives à streptocoque A dans les pays industrialisés, et notamment en Europe. En France, ces infections invasives sont en augmentation depuis l'an 2000. En 2022 notamment, plusieurs pays européens, dont la France, l'Irlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède, avaient enregistré une augmentation du nombre de cas d'infections invasives à streptocoque du groupe A chez les enfants de moins de 10 ans, d'après les données de l'OMS. Voilà, cette bactérie mangeuse de chair inquiète le Japon et progresse en Europe. C'est effrayant, quoi, une bactérie mangeuse de chair. Je sais pas. Je vous souhaite un bon appétit, d'ailleurs, si vous êtes à table, bien évidemment. J'en suis désolé, mais de parler de ça pendant la période du déjeuner, hein, c'est pas moi, hein, c'est la direction de Graphite qui me donne cet horaire-là. Mais effectivement, là, c'est vraiment une inquiétude et on suivra ça, bien évidemment. Allez, on va écouter un peu de musique. Ça va nous calmer, ça va nous faire du bien sur l'antenne de Graphite. Little head, la la la. C'était Non Mortal Orchestra avec Nadja sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h et mardi matin à 10h pour la rediffusion. Butine, l'émission d'actualité scientifique tous les samedis sur l'antenne de Graphite. Alors, deux informations. La première, on va parler d'or. Tiens, c'est pas souvent qu'on parle d'or dans cette émission. L'or qui a tendance à s'agglutiner et c'est difficile dans ces circonstances de fabriquer une feuille d'or de l'épaisseur d'un seul atome. Et bien c'est pourtant ce qu'ont réussi à faire des chercheurs de l'université de Lidköping, c'est en Suède, et qui plus est grâce à une méthode centenaire utilisée par les forgerons au Japon. Et ils ont expliqué comment ils ont fait dans la revue Nature Synthesis. Tout est parti d'un matériau en trois dimensions dans lequel de l'or est incrusté entre les couches de titane et de carbone. Le carbure d'or et de titane, c'est ça. Et pendant des années, les scientifiques ont cherché un moyen d'exfolier cet or, de l'étaler et sans succès. Jusqu'à ce qu'ils découvrent complètement par hasard une méthode utilisé dans l'art de la forge japonaise. Elle est destinée à éliminer les résidus de carbone et à changer la couleur de l'acier dans la fabrication de couteaux, par exemple. Alors les chercheurs ont eu l'idée de recourir au réactif de Murakami sur lequel elle repose pour extraire des feuilles d'or de leur carbure d'or et de titane. Et après avoir trouvé la bonne concentration de réactif ainsi que la bonne durée d'opération et avoir compris aussi qu'elle devait se faire dans l'obscurité pour que le cyanure ne puisse pas dissoudre l'or, eh bien les chercheurs ont ajouté un tensioactif pour éviter que les feuilles d'or s'enroulent. Et eh bien voilà, ça a été fait, ça a été matérialisé. Alors, pourquoi se donner tant de peine? Quel est l'intérêt? C'est parce que dans sa forme en deux dimensions, donc dans sa forme plane, l'or possède deux liaisons libres et il pourrait donc servir à convertir une part de ce dioxyde de carbone nuisible à notre climat ou encore, dans la même veine, il pourrait servir de catalyseur pour la production d'hydrogène. Il pourrait aussi être utile à la production sélective de produits chimiques à valeur ajoutée ou utile à la purification de l'eau. Et dans les applications dans lesquelles il sert déjà aujourd'hui, la quantité utile pourrait être considérablement réduite. En fait, ce qu'ils viennent de faire, ces chercheurs suédois, c'est une vraie révolution parce qu'il y a un potentiel technologique colossal. Le fait d'avoir créé cette feuille d'or la plus fine du monde, ce qu'ils ont essayé de faire pendant des années, ils ont réussi. Et si on arrive à, comment dire, renouveler l'expérience, si on arrive à pouvoir valider ce protocole pour avoir cette feuille d'or ultra fine, les conséquences, les utilisations, le potentiel technologique est extraordinaire. Donc c'est une vraie découverte, c'est une vraie annonce vraiment intéressante et qui va avoir des débouchés qui peuvent être extraordinaire, voilà. C'est ce nous vient donc de Suède, l'université de Lidköping. C'est pas souvent qu'on parle de la Suède dans cette émission. Je sais pas pourquoi. Je ne fais pas d'ostracisme, mais voilà. C'est on parle pas souvent de la Suède, ou plus, enfin pour être plutôt précis, la Suède ne communique pas nécessairement beaucoup. On va pas dire qu'il y a pas de recherche scientifique en Suède. Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas nécessairement beaucoup de communication, ou la communication n'est pas nécessairement relayée par différents médias, et notamment les médias français, pour savoir un petit peu ce qui se passe en Suède. Mais là, ce qui a été fait, c'est une vraie prouesse, et c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. On va parler de la pollution, parce qu'on sait très bien que c'est assez dramatique ce qui est en train de se passer. Le rapport mondial sur la qualité de l'air de 2023 mené par une entreprise suisse a révélé des niveaux de pollution de l'air affolants partout dans le monde. Les données utilisées proviennent de plus de 30 000 stations de surveillance qui sont réparties dans 134 pays, régions et territoires. Et ça permet une évaluation complète de la situation, notamment en ce qui concerne certains taux de polluants, de particules fines qu'on appelle les PM2,5. C'est des particules fines qui sont au cœur des préoccupations en matière de qualité de l'air parce qu'elles peuvent pénétrer profondément dans les poumons et même atteindre la circulation sanguine, ce qui va aggraver les maladies cardiovasculaires ou respiratoires. Elles sont même soupçonnées de causer des dommages neuronaux. Et sans surprise, les pays les plus exposés se situent principalement en Asie du Sud et en Asie centrale, où les niveaux de ces particules fines dépassent de loin les directives de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Des pays comme le Bangladesh, le Pakistan et l'Inde sont parmi les plus affectés, avec des niveaux de pollution plusieurs fois supérieurs aux normes recommandées. De leur côté, les bons élèves se comptent presque sur les doigts d'une seule main, puisqu'ils ne sont que 7 à respecter le seuil de sécurité de 5 microgrammes de PM2,5 par mètre cube d'air. Ça veut dire quoi ? C'est que l'OMS a donné une règle à respecter et il n'y a que 7 pays qui arrivent à respecter cette norme. 3 d'entre eux sont européens. L'Islande, l'Estonie, la Finlande et le reste de cette courte liste, eh bien c'est l'Australie, la Grenade, l'île Maurice et la Nouvelle-Zélande. Ces 7 pays respirent un air sain. On n'a pas dit un air pur, on a dit un air sain. Pour autant, il y a quelques exemples qui nous montrent que cette situation dramatique n'est pas gravée dans le marbre. Par exemple, la Croatie, qui affiche la meilleure progression en matière de recul de la pollution grâce à des politiques axées sur les énergies renouvelables, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la réduction aussi de ces particules fines. Ces données qui sont donc fournies par différents organismes sont destinées à sensibiliser le public et les décideurs politiques à l'importance de prendre des mesures pour réduire la pollution de l'air. Ces données mettent en lumière les injustices environnementales et sociales et soulignent la nécessité d'une action urgente pour protéger la santé humaine et l'environnement, tout particulièrement dans les pays les plus pauvres. Donc le rapport annuel de cette entreprise suisse EQR sur la pollution de l'air montre les niveaux catastrophiques de contamination particules fines. Sans surprise, les taux enregistrés dans les pays les plus pauvres pulvérisent les recommandations de l'OMS. Les bons élèves sont rares. Seuls 7 pays dans le monde donc offrent à leurs citoyens un air sain. C'est bien trop peu. Le rapport mondial sur la qualité de l'air de 2023 mené par cette entreprise, c'est vraiment assez difficile à pouvoir admettre cela, mais ça fait voilà, ça va être assez inquiétant de voir qu'on va, enfin je sais pas, au bout d'un moment, on va prendre des solutions, non, je n'en sais rien. Mais bon, voilà, c'est cette révélation qui a été menée par cette entreprise suisse. Seuls 7 pays dans le monde respirent un air sain. Mon Dieu, allez, on va écouter un dernier titre avant de nous dire au revoir. Il y a quelques semaines, il y a 2 ou 3 semaines, je découvrais dans la playlist de Graphite qu'il y avait Dépêche Mode. Je me fais un petit plaisir personnel, j'espère le partager. Dépêche Mode sur l'antenne de Graphite. Got the Gain, c'était Dépêche Mode sur l'antenne de Graphite avant de nous quitter. Ce dernier article qui va ponctuer un petit peu la philosophie pessimiste de cette émission. Cela doit nous rendre humbles, mais c'est aussi inquiétant d'admettre le fait qu'aucune autre année que 2023 n'aura autant déjoué les prévisions des scientifiques. C'est ce qu'explique la climatologue de la NASA, Gavin Schmidt, dans la revue Nature. 2023, c'est l'année la plus chaude enregistrée depuis le début des relevés météo. Et ça, cette année a pulvérisé toutes les prévisions. Les scientifiques s'attendaient bien à un réchauffement important, mais pas de cet ordre-là. Notre planète a connu un réchauffement supérieur de 0,2 degré à ce que les climatologues avaient prévu. Alors ça paraît pas grand-chose, mais à l'échelle du monde, la différence est énorme. Peut-être le plus grand écart entre les prévisions et la réalité depuis 40 ans, selon la NASA. Alors il y a plusieurs facteurs qui ont mené à la hausse des températures l'année dernière. Le réchauffement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre, bien sûr, mais aussi le phénomène réchauffant El Niño, les conséquences de l'éruption du volcan Unga Tonga en 2022, la diminution de certains polluants qui obstruaient le ciel et le cycle solaire, mais tout cela ne suffit pas à expliquer une telle hausse de la chaleur mondiale en 2023, c'est ce qu'avoue la NASA. La NASA qui estime qu'il y a quelque chose en plus que nous ne comprenons pas encore dans le système climatique. Cependant, le climatologue n'exclut pas que la hausse fulgurante des températures en 2023 puisse aussi s'expliquer par une simple anomalie ponctuelle, en plus donc de tous les autres facteurs qu'on vient de citer. Et si dans tous les cas, si cette anomalie de température par rapport à nos prévisions ne se résorbe pas d'ici le mois d'août, avec la fin du phénomène El Niño, alors cela voudra dire que nous sommes véritablement entrés dans le domaine de l'inconnu. C'est ce que précise Gavin Schmidt dans ce communiqué de la NASA et dans cet article paru dans la revue Nature. On ne sait pas ce qui se passe. Ça déjoue tous les pronostics et c'est encore pire que ce que l'on avait estimé. C'est pas de bon augure tout ça. On suivra bien sûr l'ensemble de ces actualités scientifiques et technologiques dans la suite des émissions de Graphite. Je vous retrouve samedi prochain. On va continuer comme ça à feuilleter la revue de presse de l'actualité parce que vous l'avez compris, la science ne s'arrête pas. Je vous souhaite une très bonne journée sur l'antenne de Graphite. On se retrouve samedi prochain. À bientôt. Au revoir.